a great pleasure to have all of you here today.
Gravel dans le retour avec Denis, Véro et Audrey.
Il est 16h33 à Boulevard, dans le retour, dans la circulation. Audrey, ça se passe comment?
Ça se passe pas bien. Là, on est vraiment dans l'heure un peu plus crunchy. J'essayais de rendre ça positif, mais il n'y a pas vraiment de positif. Si vous êtes sur la capitale en ce moment, direction Est, c'est quand même lourd entre Henri IV et Robert Bourassa. Robert Bourassa, direction Nord, ça se passe entre Charest et la capitale. Si vous êtes sur Charest, direction Est, c'est entre Henri IV et Robert Bourassa, surtout qu'on observe un ralentissement. La capitale, direction Ouest, c'est entre Henri Bourassa et Laurentienne. Dans le coin de Val-Bélair, sur Henri IV Nord, devant l'avenue industrielle, il y a un ralentissement à prévoir également. Si vous êtes devant la base militaire dans le coin de Shannon, la route de la Bravoure dans les deux directions, il y avait un incident un peu plus tôt, là, bien, il y a toujours ce ralentissement. Route de Fossambault, des Érables et de la Jacques-Cartier, c'est pas terminé. Henri IV Sud, ça se passe de chemin Sainte-Foy au pont. Pareil pour Duplessis Sud, chemin Sainte-Foy au pont La Porte, c'est au ralenti. Et la 20 direction Ouest, c'est à la hauteur de chemin des Îles surtout. Donc c'est quand même les ralentissements habituels. Évidemment, s'il y a autre chose, 88-971-102 texto.
Le moment semble bien choisi pour aborder ensemble l'actualité internationale, alors qu'à la grandeur de la planète, on a recommencé à se poser la question: est-ce que le cessez-le-feu a été compromis du côté du détroit d'Ormuz dans le secteur de l'Iran?
Ah, puis il y a plein d'affaires qu'on comprend pas. Le Congrès était censé devoir autoriser après 60 jours de conflit. Là, on essaye de bypasser ça, ça ouvre, ça ferme. Des mises à jour sont toujours nécessaires.
C'est pourquoi on va aller rejoindre avec beaucoup de plaisir Éric Sauvé, consultant en sécurité et vétéran des Forces armées canadiennes. Éric Sauvé, salut!
Oui, salut à toi.
Mon Dieu, plus ça change, plus c'est pareil. Il me semble qu'aux deux jours, on se demande si le cessez-le-feu est scrap entre l'Iran et les États-Unis.
Là, on devait escorter des bateaux en dehors de là. Là, ça n'a plus l'air de fonctionner. Éric, je comprends plus rien.
Ben là, je te dirais que tantôt, Audrey faisait la circulation puis elle disait que ça allait pas très bien, mais c'est un peu la même chose dans le détroit d'Ormuz. Les Américains ont mis en place une opération, l'opération Freedom, qui sert à faire sortir les navires et non pas les faire rentrer dans le golfe Persique. Ça s'est pas déroulé exactement comme prévu. On avait un cessez-le-feu en place depuis le 7 avril, ce qui faisait en sorte que Donald Trump et Pete Hegseth disaient au Congrès que justement, il n'y avait pas à demander d'autorisation de 60 jours parce qu'il n'y a pas de guerre depuis le 7 avril. Cependant, un blocus naval, c'est une opération armée, c'est considéré comme un conflit armé, donc ils sont encore en guerre. Là, ce qui vient de se passer, c'est qu'il y a eu un échange de tirs entre les Américains et les Iraniens. On sait que les Américains ont coulé 7 petits navires iraniens, des vedettes rapides utilisées par les gardiens de la Révolution. Mais l'autre problème, c'est que l'Iran ne s'est pas contenté seulement de frapper dans le détroit, mais ils ont frappé les Émirats arabes unis, ils ont frappé un port. Il y a eu un feu assez important, un drone qui est passé à travers la défense antiaérienne. Donc, ils se remettent finalement à frapper les autres pays du Golfe. Donc, on peut dire en ce moment que le cessez-le-feu là, ne tient plus du tout.
C'est un début d'escalade? C'est-tu le recommencement de quelque chose où on va parler d'incidents isolés?
On ne pourra pas le savoir avant les prochaines 24 heures, mais ça pourrait possiblement être le début d'une nouvelle escalade. Parce que là, ce qu'on sait de la façon de faire des Iraniens, c'est que les gardiens de la Révolution sont vraiment plus en charge que le fils Khamenei, qui finalement fait juste comme, dans le fond, cautionner leurs décisions. Eux sont beaucoup plus hardcore que l'ancien chef. Et puis, ils veulent en découdre avec les Américains. Donc, j'ai l'impression que si les Américains persistent à vouloir passer à travers le détroit, ce qui est la carte maîtresse de l'Iran, il pourrait continuer à frapper.
Puis ça, cette opération militaire-là, c'est pour sortir les tankers du détroit, puis l'Iran n'a pas approuvé ça, c'est ça?
Non, l'Iran n'a pas approuvé. Ils veulent les sortir, mais ce qu'ils ont dit, c'est que, tu sais, le président ne donne jamais de détails, mais le commandement central qui s'occupe des forces a dit que ce n'était pas une opération d'escorte de convoi un à un, c'est une protection. Mais le détroit est extrêmement étroit, à 39 km dans son point le moins large. Donc, la capacité de réaction ou le temps de réaction est très, très minimal s'il y a un problème. En ce moment, on sait que les compagnies pétrolières et les cargos ne vont pas nécessairement s'aventurer à moins que les assureurs les autorisent. Les assureurs qui sont presque tous à Londres.
Okay.
Et aussi que l'Iran donne le feu vert. l'Iran n'a pas donné le feu vert. En fait, c'est plus un feu actif de tir qu'ils ont donné pour l'instant. Fait que là, en ce moment, je pense que les compagnies pétrolières ne vont pas s'aventurer dans le détroit, malgré l'insistance des États-Unis.
Tu as parlé des assureurs. J'avais pas pensé à ça, mais pas pantoute. Pas d'assurance, les pétroliers ne bougent pas. Les assureurs, ils demandent quoi, eux autres? Qu'un cessez-le-feu soit respecté? La fin du conflit, c'est...
Bien, les assureurs, ils demandent beaucoup d'argent, premièrement. Qu'est-ce qu'ils font normalement, c'est que les assureurs à Londres, il y a deux sortes d'assurances. Il y a l'assurance normale, il y a l'assurance en temps de guerre donnée par Lloyd's. L'assurance est environ 0,25% du contenu d'un pétrolier. En ce moment, elle a monté à 1 à 3%. Ça, ça se chiffre en millions de dollars. Si les assureurs ne veulent pas assurer, il n'y a personne qui bouge, c'est certain. Ils peuvent monter à 3, 4, 5%. Mais en ce moment, sachant qu'il y a des tirs iraniens, il n'y a pas un assureur qui l'autorise. C'est certain. Parce qu'ils vont perdre leur argent.
J'imagine. Puis là, à partir du moment où les tirs reprennent, ben, il n'y a pas nécessairement de sortie ou d'avenue possible. Là. Je veux dire, on pouvait discuter peut-être des possibilités en fin de semaine. Mais là, si ça recommence à tirer des deux bords, on n'a pas fini. Là.
Non, c'est ça. Puis j'ai lu ce matin, le commandement central disait qu'il y avait des navires d'au moins 80 pays différents qui sont situés à l'embouchure. Et ils communiquent avec eux pour les enjoindre à traverser. Mais ce n'est pas des navires de guerre. Ces gens-là ne sont pas là pour se mettre en danger pour rien. Ils ont probablement des marins qui viennent de plusieurs pays, qui sont payés au salaire minimum. Il n'y a personne qui a envie de se lancer dans cette aventure-là.
Et pendant qu'on essaie de se repositionner à l'intérieur du détroit de part et d'autre, il y a des repositionnements politiques qui s'effectuent aussi. Le premier ministre du Canada, Mark Carney, qui commence à cruiser l'Union européenne, ni plus ni moins. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là?
Ou c'est l'inverse, je ne sais pas de quel bord ça se passe. Ouais.
Ben, je pense que c'est un peu de la bromance des deux côtés. Ouais, dans le fond... Le premier ministre Carney a très bien fait à Davos. Son discours à Davos a fait le tour du monde, a été propagé partout.
Les économies moyennes qui devaient se rassembler, entre autres. Là.
Exactement. Et aussi, ça fait beaucoup de différence entre écouter Donald Trump, qui n'arrive pas à faire une phrase complète, et un premier ministre qui dit « j'ai fait mon discours moi-même » et puis tout le monde a finalement la mâchoire à terre par la suite. Donc, il est très courtisé. On sait que Carney essaie de diversifier nos partenariats économiques. Il est allé en Chine il y a quand même plusieurs mois, ce qui n'a pas du tout plu à la Maison-Blanche, ce qui n'a pas du tout plu à certains Canadiens non plus, parce que la Chine, c'est quand même l'ennemi à long terme. Mais ce qu'il veut faire, c'est de diversifier les partenariats avec l'Asie, avec l'Europe. Et ça tombe bien parce que l'Europe veut le faire aussi. Parce qu'en ce moment, il n'y a presque plus aucune confiance de qu'est-ce qui vient de Washington. Les gens ne pensent pas que Trump va honorer ses accords, les contrats qu'ils ont en place. Alors, tout le monde se cherche d'autres partenaires. La Chine est la deuxième plus grosse économie mondiale. Et l'Europe, en tant que telle, est une énorme économie. Donc c'est normal que le Canada se tourne vers là. Est-ce qu'on va devenir membre de l'Union européenne? Je dirais qu'il y a loin de la coupe aux lèvres.
Ouais, puis la question se pose, là. Je veux dire, logiquement, si je regarde une carte du monde...
On n'est pas en Europe.
On n'est pas supposé d'être membre de l'Union européenne. C'est quoi le plus loin, concrètement, qu'on peut aller, là, dans cette négo-là?
Je vous dirais que Donald Trump considérait le Groenland comme faisant partie de l'Amérique.
Oui, donc, bon.
Ouais, mais il est très créatif, lui, dans sa géographie.
L'idéal, ce serait de ne pas le suivre, là.
Les Européens commencent à regarder vers l'Islande, qui ne fait pas partie de l'Union européenne. C'est assez compliqué. Il y a l'Union européenne, il y a l'espace Schengen, il y a la zone euro, il y avait l'Angleterre qui était sortie de là. Évidemment, géographiquement, on ne fait pas partie de tout ça. Par contre, on pourrait établir des partenariats avec eux. Mais se lancer complètement dans l'Union européenne, ça va prendre un gros débat au Canada parce que l'Union européenne gère l'immigration, gère les budgets et tout. Ça veut dire que le pouvoir central n'est plus à Ottawa, mais à Bruxelles. Donc, c'est vraiment, c'est une très, très grosse étape. Là. On est loin de là pour l'instant.
Puis, pendant que les téléphones se multiplient entre le premier ministre canadien, l'Union européenne et même la Chine, Trump, lui, son body, c'est Poutine, ça a de l'air.
Trump il aime beaucoup parler à Vladimir Poutine.
Ouais.
Il y a eu un décompte qui a été fait depuis le début de sa deuxième présidence. Il y a eu 12 appels. Le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de gens qui font le transcript de ces appels-là. C'est arrivé par le passé que Trump aille rencontrer Vladimir Poutine et il y avait seulement un interprète du côté russe. Bon. Donc, il y a seulement Trump, du côté américain, qui sait qu'est-ce qui s'est dit. Le problème aussi, c'est que quand il raccroche, Trump est souvent convaincu de faire des choses qui ne sont pas très positives envers l'OTAN. Et la dernière, dernier événement en ligne, c'est qu'il a parlé de fermer, en fait, de retirer 5000 troupes de l'Allemagne, 5000 troupes, parce qu'il y a quand même des dizaines de milliers de troupes américaines en Europe. Trump, après avoir parlé à Poutine, a décidé d'en retirer 5000 et aussi n'était pas très enchanté de ce que le chancelier allemand avait dit, disant que Trump était contrôlé par l'Iran.
Ouais, ben là, c'est ça. Là. Trump, ses détracteurs l'accusent d'être la marionnette d'Israël. Là, il y en a qui vont l'accuser d'être la marionnette de Poutine si à chaque fois qu'il raccroche le téléphone, il prend des décisions qui ont l'air de plus servir Vladimir Poutine que d'autres choses.
Mais il faut quand même dire que c'est une première dans l'histoire des États-Unis. Depuis la guerre froide, depuis que le rideau de fer est tombé sur l'Union soviétique, il n'y a jamais un président américain qui a voulu se montrer près d'un dirigeant russe.
Ouais.
Surtout pas un dictateur à la Poutine, surtout pas quelqu'un qui a envahi un pays souverain comme l'Ukraine. Clairement, on n'a jamais déroulé le tapis rouge, puis je le dis de façon physique, là, on l'a fait en Alaska quand Poutine est venu. Aucun président américain n'a déroulé le tapis rouge devant un chef russe. Et puis là, ben, c'est complètement le monde à l'envers avec ce qui se passe en ce moment.
Concrètement, Éric, s'il retire les troupes de l'Allemagne, qu'est-ce qui arrive?
Ce qui est comique là-dedans, c'est que c'est Trump qui se tire dans le pied parce que les bases en Allemagne et en Europe, c'est des bases avancées pour projeter par rapport à l'Afrique, par rapport au Moyen-Orient, autour de l'Europe. Donc, c'est l'armée américaine qui se prive de bases stratégiques. Trump pense faire mal à l'Allemagne. Évidemment, ça fait mal à l'Allemagne un peu parce que 5000 troupes, ça amène beaucoup d'économies dans la région, mais ça fait plus mal aux Américains que ça fait mal aux Allemands.
Que ce soit le Congrès américain ou que ce soit l'OTAN dans son entièreté, est-ce qu'on voit Trump comme un mal passager puis qu'après ça, on va reprendre business as usual
ouais, qu'on fait juste attendre
dans,
que ça passe,
dans hein, toutes ouais. les tensions internationales où on commence à penser que ça va être fragilisé, même passé le règne Donald Trump?
Le problème, c'est que le Congrès est complètement absent. Oui. Si Trump était remis en place par le Congrès, par la Chambre des représentants ou le Sénat, les gens auraient confiance envers le système américain. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'on a quelqu'un qui vise une dictature aux États-Unis, qui contrôle le législatif, qui il y a seulement le judiciaire qui ne contrôle pas en ce moment, encore en partie, il le contrôle. Mais les gens du Congrès s'indignent devant les médias, mais ne font absolument rien. Donc, la confiance est perdue. On sait que le problème, c'est Trump, mais on sait que le problème est systémique aussi, dans le sens que le système n'arrive pas à contrecarrer les désirs d'un président mercurial. Donc, la confiance va être très, très longue à rétablir, même après Trump, même si c'est un démocrate, si c'est pas J.D. Vance ou un autre. Ça va être difficile de croire que le système peut justement parer à une personne qui tente de le contrôler, comme on le voit en ce moment.
Le ménage n'est pas fini. Hein? Éric Sauvé, encore une fois, très intéressant. Merci beaucoup.
Merci, à la prochaine.
Bye-bye. Éric Sauvé, qui est consultant sécurité et défense, vétéran des Forces armées canadiennes. Toujours intéressant sur pas mal tout ce qui se brasse dans l'actualité internationale. C'est drôle, hein? Pendant tout le temps de la conversation avec Éric, j'avais un œil sur LCN.
Des fois qu'il sortirait autre chose.
Puis le bulletin de nouvelles, c'était ça. C'était l'actualité avec Mark Carney, l'Union européenne, le cessez-le-feu qui est peut-être compromis, encore une fois, du côté de l'Iran et des États-Unis. Mais je trouve ça le fun qu'on prenne le temps de s'expliquer tout ce qui se passe autour de nous autres.
C'est parce qu'on est loin de l'époque, entre autres, si on parle de l'Iran et des États-Unis, on est loin de l'époque où ce qui sortait de la Maison-Blanche, c'était, sans dire du factuel, c'était un message clair. Mm-hmm. Là, tu as l'impression que c'est des conférences de presse, des impromptus de presse à tout bout de champ, départager le vrai du faux, qui dit quoi. Ah, c'est capoté, je trouve ça vraiment particulier.
Moi, ce qui m'avait impressionné, c'est que ça a été très long avant que la bourse arrête d'être influencée par toutes les déclarations du matin de Donald Trump, alors que depuis un bout, on se rendait compte qu'il disait n'importe quoi puis son contraire.
Bien, c'est pour ça qu'il y en a qui estiment qu'il y a peut-être eu des délits d'initié à travers tout ça.
Mais oui.
T'sais, on a parlé beaucoup de polymarket à un moment donné, c'est des parieurs sur l'actualité en mm-hmm. général.
Oui.
T'sais, fut un temps où tout ce qui existait, c'était les fameux Deadpool,
oui.
où, avec très mauvais goût, on pariait sur les dates potentielles de décès de personnalités qui arrivaient à un âge certain.
C'était
ou
de mauvais goût,
de vie.
C'était de mauvais goût, mais c'est moins pire que d'aller à une manif syndicale avec une guillotine.
Vu de même, oui. Ouais, tandis que là, maintenant, c'est des paris sur des événements d'actualité, sur de la météo, sur le réchauffement climatique, sur tout ce que vous voulez. Puis là, quand c'est rendu que tu es capable de faire des corrélation pardon, entre des gens qui ont réussi à faire de l'argent sur Polymarket puis des déclarations de Trump et leur effet sur la bourse, là, t'es comme, hey, on est-tu en train de s'en faire passer des petites vites puis on n'est pas capable de le prouver puis de le démontrer?
On vit dans une drôle d'époque. Une chance qu'on a le hockey, tabarnouche. 16h48, faut bien changer les idées une fois de temps en temps. Hein. On s'arrête pas longtemps. S'il y a quoi que ce soit sur les routes ou ailleurs, c'est le 88 971 1021.
Pour joindre l'équipe de